franceinter.fr.
Carnet de campagne, bonjour les carnets dans le département de Meurthe-et-Moselle, encore pour deux jours en Lorraine, chez les Lorrains et bientôt avec le Florin. C'est ainsi que s'appelle la monnaie locale complémentaire, une de plus, qui va circuler en octobre prochain à Nancy. Suite à une longue gestation et à deux mois de conception de la monnaie elle-même, les premiers billets types sont sortis de la presse. Il n'y a plus qu'à, comme on dit, il n'y a plus qu'à lancer les impressions à grande échelle. Et le trio concepteur, épaulé d'une trentaine de bénévoles, a mis en route un petit financement participatif pour imprimer les billets. La mise en circulation est prévue le 7 octobre. 15 commerçants sont déjà inscrits, mais les créateurs du Florin en attendent 80 à la date du démarrage. Le site, c'est monnaielocalenancy.fr. Deux créateurs nous attendent aujourd'hui, et en l'occurrence, 5 créatrices du collectif Kaleidosco, un collectif de 5 jeunes femmes maîtres verriers, on dit pas maîtresse verrière, dont Lucie Roy, première invitée, fait partie. Et puis nous reviendrons ensuite à Nancy pour appeler Geoffrey Pernaud, un des fondateurs de Racine Carrée, association d'agroécologie urbaine.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Lucie Roy, bonjour.
Bonjour.
Lucie, créatrice avec 4 amis de Kaleidosco. Vous vous présentez comme un collectif de créateurs verriers, créé en septembre dernier. C'est une entreprise coopérative en fait.
Oui, tout à fait, c'est une entreprise coopérative. Au moment où on a choisi notre nom, on ne savait pas encore quel statut on allait adopter. Donc on a choisi de mettre en avant le côté collectif, voilà.
Quand on est jeune comme vous, Lucie, ou comme Claire, Charlotte, Joanne et Angèle, vous quatre autres associés, se lancer dans le verre, ça correspond à quelle envie ? Il y a une tradition ou c'est une découverte ?
Ça a été une découverte pour nous cinq, qui s'est faite à différents moments de nos parcours. Joanne, par exemple, elle a commencé très tôt, à 18 ans, elle s'était déjà lancée dans le monde du verre. Moi, j'ai fait des études d'art avant de m'orienter vers ce matériau. Il y en a, Charlotte faisait de la géographie, Claire faisait du commerce. Enfin, voilà, c'est arrivé un peu au gré de nos parcours, par des rencontres de hasard, je pense. Mais après, qui se sont construites, quoi.
Et vous êtes rencontrés au CERFAV. Le CERFAV, oui. C'est le Centre Européen de Recherche et de Formation aux Arts Verriers de Vannes-le-Châtel. Dites, quand on dit verrier, on pense tout de suite à un métier plutôt masculin et pas vraiment féminin. On va dire verrière. J'ai peur d'entendre après une pub pour la véranda, pour les vérandas.
Voilà, on a du mal à dire verrière.
Bah oui, verrière. Le métier est quand même un métier en partie physique.
En partie physique, oui, et traditionnellement masculin pour ce qui est du travail à l'usine. Par contre, en fait, dans notre centre de formation, on se rend compte que c'est un centre qui est quand même très axé sur la création, donc sur un côté artistique, et il y a énormément de filles, pas ceux qui se destinent à l'usine où ça reste majoritairement masculin,
exact.
Mais en création d'entreprise, c'est assez féminin.
Ouais. Quand on connaît la situation d'entreprise, du verre, du cristal, en particulier en Lorraine, se lancer dans la création de votre propre entreprise, c'est pas un acte un peu fou ?
Si, on s'en rend encore plus compte une fois qu'on a mis les pieds dedans.
Alors, qu'est-ce qui vous a convaincu de persister dans cette voie-là ?
D'abord, vraiment la passion, j'ai envie de faire ce métier et aussi d'être indépendante, donc pas de travailler pour d'autres verriers, mais d'avoir notre propre atelier. Ça, c'est un rêve qui a germé quand on s'est rencontrés il y a 5 ans, donc pendant notre formation au CERFAV. Et après, on a eu nos expériences, chacune de nos côtés à l'étranger, et puis on s'est retrouvés, on avait toujours cette envie de monter l'atelier. Et là, on a été effectivement beaucoup aidés par des acteurs régionaux. Il y a un correspondant de l'Institut National des Métiers d'Art, Christophe Delavenne, qui est très dynamique. Et puis après, au niveau des communautés de communes, il y a aussi une envie d'accueillir des gens sur le territoire. Donc nous, on a eu un atelier qui est vraiment splendide grâce à un dialogue avec la communauté de communes.
Et c'est un ancien atelier de céramiste qui est à Favières.
C'est ça.
Alors, vous lancez à vous cinq une ligne de vaisselle que vous avez baptisée Bento Kaleidosko. Or, Bento Kaleidosko, je veux bien le dire. Quand on connaît toutes les difficultés pour travailler les formes au soufflage de verre, ensuite au thermoformage, comment créer une gamme sans que chaque élément soit trop dissemblable des autres?
Ça a été un peu l'objet de la réflexion, c'est-à-dire, oui, comment conjuguer nos savoir-faire, donc que chacune puisse réaliser une partie du processus en ayant quand même une harmonie d'ensemble. Donc, on a pas mal travaillé sur la question de la couleur pour avoir une harmonie. Et puis après, c'était aussi une question d'harmonie de courbe. Donc ça, c'est un travail sur le choix des moules, en fait, pour qu'il y ait des formes qui se combinent assez bien, quoi, les unes avec les autres.
Oui, c'est très réussi, hein. Je conseille aux auditeurs d'aller voir cette collection Bento Kaleidosko. Alors, vous avez eu un financement participatif qui vous a complètement comblé. C'est quand même fou, parce qu'il y a beaucoup de financements aujourd'hui qui fonctionnent très bien et qui dépassent même les objectifs.
Bah, c'est vrai que c'est quelque chose auquel nous, de notre génération, on va dire, on pense assez rapidement quand on a un projet. Là, l'idée, c'était qu'on puisse lancer cette collection de vaisselle pour pouvoir tester un peu en pré-vente le succès qu'elle pourrait avoir auprès du public. Et puis, c'était pour nous d'acheter, nous permettre d'acheter un four. Et c'est vrai que ça a très bien marché.
Et Lucie, où peut-on trouver cette vaisselle contemporaine en verre?
Pour l'instant, on l'a pas encore distribué en magasin parce qu'on est sur la production pour le financement participatif, donc l'envoi des pièces à nos contributeurs. Mais l'idée, c'est que ce soit présent en boutique sur Nancy et Paris, et sinon sur salon en fait. Chaque fois qu'on fait un salon, on présente notre collection commune en plus des créations qu'on réalise individuellement.
Ça s'appelle Kaleidosko, le site c'est tout simplement kaleidosko.fr. Merci Lucie.
Merci beaucoup, bonne journée.
C'est une histoire presque banale qui voit le jour il y a 4 ans du côté de Pont-à-Mousson, la commune célèbre pour les plaques d'égout qui sortent en fonte, qui sortent des usines reprises par Saint-Gobain. Ça fait drôle de dire « je vous connais à cause des plaques d'égout ». Pont-à-Mousson est d'ailleurs connu pour ses activités sidérurgiques. Donc c'est dans ce territoire traversé par la Moselle que trois amis ont imaginé le festival le plus économique du monde, un festival de musique sans électricité. L'idée est venue d'une conversation avec un musicien un petit peu accablé par l'idée de déballer encore son matériel de sono, ses amplis, ses jeux de lumière. Et puis l'idée a fusé, pourquoi pas jouer sans électricité? Et c'est sur la colline de Mousson, qui surplombe la commune et qui porte les regards au lointain sur la plaine, que s'est installé le festival La Colline Enchantée. A priori, Enchantée et eux a été pris, donc les organisateurs sont rabattus sur un infinitif. Donc La Colline Enchantée ER. L'autre particularité du festival est de durer qu'une journée, le 2 juillet pour la prochaine édition. Ce sera la quatrième. Ça a lieu de 11h à 23h avec un nombre incalculable d'artistes invités qui se partagent trois scènes sur la butte de Mousson et qui sont tous sans électricité. Donc il y a des transformations, les guitares basses sont acoustiques, etc., etc. Le piano aussi, évidemment. Beaucoup de locaux y participent aux côtés de musiciens venus d'autres régions. Et il y en a pour tous les goûts, rien à voir avec les bouches d'égout. Comme les culs trempés, par exemple, sous-titré « Musique de cow-boy à la con ». Ça me plaît. Il y aura aussi du rock indie, de la chanson rock, du jazz insolite, du folk rock, même de la chanson solidaire, je te demande à entendre. L'intelligence de l'association organisatrice, Nectar, est de proposer un bar à thé sans électricité. Lui aussi, une restauration à prix libre pour permettre à tout le monde de manger à sa faim sans faire un trou dans le porte-monnaie. La Colline Enchantée, donc ER.fr. Il y a aussi une page Facebook au même nom. Nous revenons comme prévu à Nancy avec Geoffrey Pernaud. Bonjour Geoffrey Pernaud.
Bonjour Philippe Bertrand.
Geoffrey, président, cofondateur de l'association Racine Carrée depuis le début 2016, donc c'est tout récent, à Nancy. Des études agricoles, BTS, un master, de la recherche en laboratoire sur la culture et les sols. Ça vous a conduit à prendre position en faveur d'une agroécologie urbaine?
Tout à fait, oui. Envie de jardiner, envie de créer une association qui permette à des gens de jardiner et qui puisse mettre en lien des gens qui ont des particuliers qui ont un terrain. Qui ne savent pas trop quoi en faire, qui n'est pas exploité, et d'autre part, de mettre en relation des gens qui, comme moi, sont très urbains, habitent en ville, dans un appartement, ont envie de jardiner, mais n'ont pas la possibilité de le faire, car ils n'ont pas de jardin. Et voilà, on met en lien les deux, et on crée des jardins partagés sur des terrains chez des particuliers.
Donc le premier principe, Geoffrey, c'est que des propriétaires qui possèdent des terrains, mais qui restent en jachère, les mettent à votre disposition.
Tout à fait. On signe une petite convention avec eux, et puis quand on a le terrain, on part à la recherche de personnes dans le quartier, des riverains, qui seraient intéressés pour en faire un jardin partagé.
Alors, jardin partagé, ça veut dire qu'on adhère à l'association, on participe à la culture et on bénéficie des produits du jardin.
Tout à fait. On est une dizaine de jardiniers en général par jardin. On se fait une petite cagnotte d'une vingtaine d'euros par an, et ce qui permet de payer les frais annuels, notamment l'eau par exemple. Mmh. On partage les décisions, on partage les récoltes bien évidemment.
Oui. Vous avez pour l'instant un jardin à Nancy, un Maxéville, un Essel-et-Nancy. Essel-et-Nancy, c'est le dernier en date avec 10 jardiniers urbains.
C'est ça, oui. On est chez une dame, une très très vieille dame qui ne pouvait plus s'occuper de son jardin et qui était trop malheureuse de le voir dépérir. Elle nous a contactés, on est allé la rencontrer, on a discuté avec elle, ça lui a bien plu. Et il y a 10 jardiniers maintenant qui passent très régulièrement dans son jardin et qui font un très très joli jardin partagé là-bas.
Et par expérience, Geoffrey, vous considérez que les citadins, les habitants des villes ont perdu le lien avec la nature?
Et effectivement, oui, par expérience, en installant plusieurs jardins partagés, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont un petit peu perdues, mais ça vient et ça revient très très vite.
Oui, mais enfin, il faut connaître un peu les pratiques, vous les enseignez?
Alors, on encadre très fortement, effectivement, au niveau des semis, des différentes espèces, des différentes variétés. On établit un calendrier de culture assez complet, dans lequel est indiqué quand est-ce qu'il faut semer, quand est-ce qu'il faut planter, les différentes interventions et quand les récoltes sont prévues.
D'où viennent les semences?
Pour l'instant, nous les achetons. Nous avons le projet de dès l'année prochaine, si c'est possible, de créer et installer une grainothèque à destination de tous les Nancéens, une grainothèque pour s'échanger nos semences.
Ouais. Et puis vous prévoyez de créer un réseau, une plateforme de rassemblement des acteurs de l'agriculture urbaine du Grand Nancy.
Oui, tout à fait, oui. Et en se disant que ces différents acteurs, qui sont malgré tout nombreux sur le territoire, d'une part les particuliers avaient un petit peu du mal à les trouver, et d'autre part que ces différents acteurs avaient du mal à se rencontrer et à se parler entre eux. Et pour le développement de ce réseau, on est en collaboration étroite avec le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle pour travailler au développement de ce réseau.
Mmh. Et puis, dernière chose, c'est l'initiation pour tous les publics, y compris ce que vous prévoyez de faire. Je crois que vous avez commencé d'ailleurs la construction. Ce sont des bacs de culture au foyer de jeunes travailleurs à Nancy.
Effectivement, on a développé des bacs de culture au foyer des jeunes travailleurs qui s'appelle Les Abeilles, qui est situé à Nancy. Et on a développé aussi des bacs de culture pour le CCAS de la ville de Nancy, pour une résidence de personnes âgées.
Très bien, belle initiative qui explique aussi en partie, pas uniquement, le nom de l'association Racine Carrée au pluriel. Hein. Le site c'est Racine, donc au pluriel, tradeunioncarré.fr, et puis Racine Carrée Nancy pour la page Facebook. Merci Geoffrey.
Merci Philippe Bertrand.
Demain, nous ouvrirons une dernière page, ultime page de la 11e saison des carnets en Meurthe-et-Moselle, à Toul et à Nancy. Et puis, un rappel pour la rentrée du 28 août au 1er septembre, nous serons dans le Pas-de-Calais, ensuite sur l'île de la Réunion et après en Seine-Maritime. Merci pour vos messages et continuez à nous écrire. Donc en Meurthe-et-Moselle, Nicolas Soufflet, le jeudi 1000 euros, à Les Saint-Christophe.